Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La moitié sud du pays a donc vécu un dimanche brûlant, jusqu'à 43,4 degrés à Argeliers dans l'Aude.
On va vivre dans le frigo jusqu'à la fin de l'été, puis c'est tout.
Cela relève de l'éco-terrorisme.
How dare you?
Je ne crois pas au modèle Amish.
Mais vous êtes dingue!
Qui va aller sur la terre?
Là, il est temps aussi peut-être un peu de désobéir.
Sainte-Soline, à 69, plusieurs luttes pour l'environnement ont été très médiatisées ces dernières années.
Pourtant, à l'image de la contestée loi du plomb, la législation environnementale est peu à peu détricotée.
L'écologie n'a plus la cote chez les politiques et les médias.
Certains n'hésitent plus à qualifier les militants écologistes d'éco-terroristes.
Un violent retour de bâton qu'on retrouve à l'échelle planétaire, 10 ans après les accords de Paris.
Depuis le début de l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,5 degré.
Les climato-sceptiques, notamment présents à l'extrême droite, s'emparent du pouvoir politique, comme en Italie, aux États-Unis et en Argentine.
Assistons-nous réellement à un retour en arrière?
L'écologie politique est-elle morte et enterrée?
La lutte environnementale est-elle cantonnée à l'échelle locale?
Un autre monde est-il possible entre convergence et dépassement du capitalisme?
Vert de rage, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif des manifestants!
Il y a 10 ans encore, endiguer le changement climatique semblait être la clé de voûte de l'action politique en France. Lors des accords de Paris de 2015, le monde s'engage à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Belle promesse, échec cuisant. Alors que les étés caniculaires et les méga-feux se multiplient, que les glaciers fondent toujours plus vite, pourquoi le moteur politique est-il au point mort? Sous le budget 2025, adopté au 49.3 par François Bayrou, l'écologie a fondu, perdant 14% de ses subventions. Saupoudrer le tout d'une instabilité politique latente, et là, la machine cale. Comment la transition écologique trouve-t-elle sa place dans ses rouages? Après les 2 millions de signatures recueillies contre la loi du plomb, les mouvements militants veillent. Pourtant, est-ce suffisant pour parler d'un backlash écologique? Ou, en français, un retour de bâton? Pour Qui veut la peau de l'écologie, le premier épisode de Vert de rage, nous avons enquêté pour vous au cœur de l'écologie politique.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Examen du premier suspect, l'État. La cour fait appel à Marine Brou, ancienne conseillère écologique pour Elisabeth Borne. En novembre dernier, elle a publié un livre qui aurait pu prédire Leçon de 10 ans d'écologie politique.
Pour le coup, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il y a un backlash, qu'on est en train de traverser un backlash. Je sais qu'il y a débat autour de ce sujet-là. Parce qu'effectivement, on voit des retours en arrière sur un certain nombre de politiques écologiques. Effectivement, il y a eu pas mal d'attaques en règle contre des politiques écologiques, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, avec la directive Omnibus votée au Parlement européen dans des termes très, très affaiblis il y a quelques jours. Je pense que ce retour de bâton, il est lié en partie au fait que la transition écologique, pendant longtemps, on en a parlé et maintenant on l'a fait. Et donc, quand on fait la transition écologique, ça commence à devenir mordant dans certains quotidiens, dans le quotidien de certaines entreprises, de certaines personnes. Et que parfois, ces mutations-là, certaines personnes ne sont pas prêtes à les accepter et donc ça grince. Après, il y a aussi beaucoup de politiques qu'on n'a pas très bien faites et je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer sur... comment est-ce qu'on construit des politiques publiques avec beaucoup plus les acteurs qui ont à les faire pour qu'elles soient mieux appréhendables, mieux comprises et donc mieux mises en œuvre par ces différents acteurs.
Autre constat, une diminution de près d'un tiers du budget du Fonds vert, un fonds alloué à la transition écologique qu'elle a aidé à mettre en place en 2022.
Mais ce qui est sûr, c'est que je continue à croiser des décideurs publics qui donne l'impression de considérer la transition écologique comme une forme de supplément d'âme, le petit truc en plus qu'on fait parce qu'il faut et parce qu'on nous le demande.
Ignorer l'écologie est une chose, mais la criminaliser en est une autre. Pour en comprendre les tenants et aboutissants, un exemple s'impose. En 2022, des affrontements d'une rare violence ont eu lieu à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, entre des manifestants écologistes et des gendarmes. Résultat, près de 200 manifestants blessés ce jour-là. En réaction, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, qualifiera les manifestants d'éco-terroristes. Un terme qui, pourtant, ne reflèterait pas la tendance actuelle des mouvements écolos.
Je m'appelle Anthony Cortès et je suis journaliste à l'Humanité. Et donc, je suis auteur de l'affrontement qui vient, de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Et je travaille beaucoup sur l'écologie politique. L'éco-terrorisme, pour moi, ce serait la volonté de porter atteinte à la vie humaine pour des motifs écolos, en se disant que la cause est si juste qu'elle légitime d'une certaine façon l'emploi de tous les moyens, dont les plus violents. Ce mot éco-terrorisme, il est utilisé pour mettre en scène une sorte d'affrontement entre ceux qui veulent le désordre, ceux qui veulent les troubles, et au contraire, en face, ceux qui défendent le bien commun, une sorte de tranquillité publique.
Pour autant, fait-on face à un système de répression ?
Oui, très clairement, il y a une répression d'État qui se met en place, hein, qui n'est pas nouvelle. Si on élargit un peu la focale et qu'on se place, par exemple, à l'époque de la COP21, il y a déjà eu des dizaines de militants écologistes assignés à résidence. À l'époque, on était juste après les attentats, donc c'était sous le motif de l'état d'urgence. Mais depuis, ce qu'il faut savoir, c'est que cet état d'urgence-là, il a été prolongé par la loi SILT, qui, en fait, place dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence. Et en fait, la répression des militants écolos se fait sous ce motif-là, en fait. Par la loi SILT, on a facilité les assignations à résidence. On a facilité la surveillance, on a facilité les perquisitions. Donc en fait, il y a tout un ensemble qui a été mis en place pour réprimer et tout un ensemble d'outils qui a été mis en place pour surveiller et pour ficher. Donc très clairement, oui, la machine répressive d'État s'est mise en branle, en particulier contre les mouvements écolos.
Retour en Bretagne, auprès d'une figure de l'écologie rennaise. En 2017, Daniel Cueff, alors maire de Langouette, tente de faire interdire les pesticides dans sa commune. Après un long combat, la justice suspendra son arrêté, prétextant qu'une telle décision ne relève pas de ses compétences de maire. Aujourd'hui vice-président à la mer et au littoral à la région Bretagne, il défend une politique écologique axée sur le principe de décentralisation.
Beaucoup de discours du président sur la nécessité de faire la décentralisation, c'était même dans ses projets présidentiels aux élections, et il a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a centralisé autour du président de la République, et en plus, on nous demande de contribuer à la faillite de l'État. Donc on va nous supprimer, on a déjà 40 millions d'euros ici rien que l'année dernière pour la région Bretagne, donc ça veut dire que l'on freine nos investissements sur les transports, par exemple, qui est notre compétence régalienne. On va différer la mise aux normes thermiques d'un nombre important de lycées.
Décentralisation, criminalisation, désintérêt, les causes semblent nombreuses. Il était donc temps de nous rendre au cœur du pouvoir, à l'Assemblée nationale, pour assister à une rencontre un peu particulière.
Mesdames et messieurs, notre train à destination de Paris-Austerlitz va partir pour des gardes à la fermeture des portes à jonction des bas.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment émue d'être parmi vous aujourd'hui parce que monsieur Nicolas Bounet vient de traduire le cauchemar que nous vivons en tant que sinistrés climatiques. Donc je vais témoigner maintenant concernant ce que je vis au quotidien. Mayotte, c'est un département français. Nous sommes environ 320 000 habitants. Nous, au niveau de l'eau, c'est une vraie problématique. Lors de la grande sécheresse de 2023, nous nous sommes retrouvés, mes enfants et moi, sans eau pendant plusieurs mois. Je vous laisse imaginer la puanteur qu'il y avait dans ma maison.
La voix que vous venez d'entendre, c'est Racha Mousdikoudine, une sinistrée climatique du collectif L'Affaire du siècle. Cette organisation s'était fait connaître en 2017 après avoir fait condamner l'État français en justice pour inaction climatique. Le 26 novembre dernier, ils ont organisé un colloque sur l'adaptation climatique au sein de l'Assemblée nationale. Elsa Ingrand, membre du collectif, a pu nous en parler.
L'objectif de cette journée, c'est de porter le sujet de l'adaptation au changement climatique auprès des députés. Ce dont on a besoin, c'est que ce soit un sujet qui soit porté politiquement. Certes, on fait des recours contre l'État, donc c'est quelque chose de très confrontatif, mais c'est aussi parce qu'on a la conviction que l'État peut agir. Et l'État, et c'est parce qu'on croit en l'État, en fait, peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est justement pour le pousser à agir davantage et voilà, respecter ses engagements légaux, tout simplement.
Ici, on défend le principe 1 euro dépensé aujourd'hui dans la transition écologique, c'est 8 euros économisés plus tard. Nicolas Bonnet, député écologique depuis 2024, est le co-organisateur de l'événement.
Bon, aujourd'hui, il y a insuffisamment de moyens d'argent public qui est mis sur les questions climatiques au sens large, que ce soit atténuation ou adaptation, et ça peut être réalisable. En réorientant des financements au niveau de l'État, par exemple aujourd'hui on finance encore des activités qui sont nuisibles pour le climat, ou tout simplement aussi en mettant en place de nouvelles recettes, par exemple faire contribuer davantage les plus riches.
En réponse au manque d'action étatique, les mouvements écologistes occupent aujourd'hui le devant de la scène médiatique, et c'est à ce titre qu'ils deviennent, dans notre enquête, les deuxièmes suspects de ce backlash. Car lorsqu'ils s'expriment dans l'arène politique, les écolos ne font peur à personne. On les écoute sans vraiment les entendre, leurs alertes semblent perdre toute force, comme si leur présence institutionnelle les rendait soudain inoffensifs. Et quand l'écologie redescend dans la rue, portée par les citoyens, elle devient brusquement trop radicale, trop dérangeante, marquée par la désobéissance civile et les actions directes. Pris entre l'impuissance politique et l'accusation de radicalité, les écologistes avancent sur une ligne étroite que Nicolas Sévenot, secrétaire du groupe local des écologistes de Rennes, explique assez clairement.
Je ne pense pas qu'on soit une crainte, sauf pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, on est ciblé. On n'a jamais été autant ciblé. L'écologie politique vivait. On faisait nos marches du climat avant les élections de 2020. Il n'y avait pas de répression particulière. Enfin voilà, on pouvait porter nos idées sans crainte pour nous. Et là, il y a eu effectivement un basculement. Et Sainte-Soline est malheureusement un triste exemple.
Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat.
Qui sont donc ces soi-disant éco-terroristes et que revendiquent-ils vraiment ? Derrière ce terme, on trouve surtout des collectifs citoyens, ancrés localement, qui mènent des actions publiques et assumées. Alors pour comprendre qui agit, comment et pourquoi, nous avons choisi de remonter la piste jusqu'à Alternatiba, un mouvement présent partout en France, mais qu'en est-il précisément en Bretagne ? Quelles sont leurs revendications et quels liens entretiennent-ils avec les instances publiques ? Direction leur groupe local à Rennes.
Alternatiba, c'est un mouvement qui existe depuis 2015 à Rennes. C'est un mouvement citoyen pour défendre la justice écologique et sociale. Au niveau ville et ou métropole, on arrive quand même à avoir des rendez-vous. On est prêt à échanger avec les élus et tout.
Carrément.
Il y a d'autres collectifs qui n'iront jamais voir un élu, quoi.
C'est ça.
C'est pactisé avec le diable.
Oui. Donc, c'est important que qu'il y ait des choses complémentaires qui soient faites. Après, ça ne veut pas dire qu'on pense que tout se vaut, etc. C'est vraiment juste pour différencier. La désunion des modes d'action, ça peut parfois desservir un peu, mais beaucoup moins que la désunion sur le fond, quoi.
Être d'accord sur un socle d'idées. Mais comment faire ? Y a-t-il réellement un consensus face à la crise climatique ? Et si oui, comment pourrait-il émerger dans un climat où les militants sont terroristes et les plus gros pollueurs écartés du débat politique ? Pour éclairer ces tensions et comprendre quels sont les facteurs bloquant l'écologie politique, aventurons-nous jusque dans l'antre de la recherche académique française, le Collège de France.
Oui, bonjour monsieur Descola. Oui, la journaliste vous attend, elle est en bas. Très bien, à tout de suite.
Je suis anthropologue, professeur émérite au Collège de France, après avoir enseigné pendant à peu près 20 ans au Collège de France et à l'École des hautes études en sciences sociales.
Mais alors, monsieur Descola, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque l'écologie politique ?
Essentiellement, d'abord des maladresses qui, je crois, ont été exploitées par les mouvements de droite et d'extrême droite, qui n'ont pas suffisamment pris en considération que des réformes souhaitables, je pense aux zones à faible émission, je pense taxes sur le diesel, etc., affecter en premier lieu des gens aux revenus modestes, et qui par conséquent ont eu tendance à voir et bien sûr alimentés par la propagande de la droite et de l'extrême droite, ont eu tendance à voir dans ces mesures, des mesures antipopulaires visant à priver des gens qui étaient déjà dans une situation économique précaire des quelques moyens dont ils disposaient encore. Donc il y a cette maladresse, sans aucun doute.
Une certaine maladresse des mouvements écologistes, souvent accusés de manquer de pédagogie, les rendrait parfois impopulaires. Alors vers qui se tourner pour mieux transmettre l'urgence écologique ? Faut-il demander aux pédagogues, aux chercheurs, aux grandes voix de mouvement, comme Philippe Descola, d'assumer ce rôle et d'offrir les clés d'une véritable compréhension de l'écologie ?
Le fait qu'un savant, c'est comme ça que je me considère, fait porter le résultat des recherches qu'il a menées en leur donnant une dimension politique me paraît plutôt une bonne chose et dans une grande tradition de la science française. si cette attitude peut passer pour du terrorisme écologique ou de l'écoterrorisme, je pense qu'il faut plutôt interroger la psyché des gouvernants que des savants qui se mettent dans la même situation que moi. This
is all wrong. Ils me traitent d'éco-terroriste. En gros, disent que je suis trop rigoriste. Quand je dis
une, même la posture du savant, de l'érudit, n'échappe pas à cette forme de criminalisation qui traverse tout notre examen de ce deuxième suspect, les écologistes. Comment alors comprendre ce rapport à la violence ? D'où vient cette image de radicalité associée au mouvement écologiste, alors même que, sur le plan institutionnel, il ne fait pas trembler grand monde ?
Justement, sur le sujet de... Je pense qu'on pourrait parler de violence climatique dans plein de cas de figure, et que le terme de violence est souvent utilisé dans les médias pour qualifier les gens qui font certaines actions en réaction à une action globale. Et on va pointer cette violence-là, mais pas la violence et les violences au pluriel qui ont mené à ces actions de révolte.
Mais alors, on peut légitimement se poser la question, quel avenir pour l'écologie politique ?
Je pense que c'est dans des cas d'affrontement profond que les clivages vont se faire, au fond. Pour dire les choses simplement, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça va avoir un effet de clivage, comme l'a eu tout simplement l'occupation allemande en France. Les gens vont se décider à ce moment-là.
Enfin, en fait, on a du pouvoir au niveau individuel si on se met tout ensemble, quoi. C'est vrai qu'à force de voir des initiatives qui sont super, je repense encore une fois à la Convention citoyenne pour le climat qui était super, où je pense les gens qui l'ont commandité n'y croyaient pas, c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'ils allaient tout accepter. Au final, ils n'ont rien accepté parce que les résultats étaient super. Mais voilà, à force de voir des choses qui sont des super initiatives mais qui ne sont pas suivies des faits, je pense que ça peut aussi décourager des gens. Et, ouais. Et le risque, c'est que les gens ne se mobilisent pas. Plus, sauf en cas vraiment de crise extrême, quoi.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre.
Vos idées mortifères vont faire couler la France. Vos politiques n'attisent que la guerre. Vous soutenez une police qui tue. Vous soudez un régime fasciste. Minez les esprits pour faire régner la peur dans votre monde idéal. L'amour se meurt, vous apprenez pas vos erreurs. Vous êtes antipathique, c'est énigmatique. Pourquoi vouloir que le monde se déchire? Tout ça pour garder vos petits privilèges. Vos fantasmes d'un danger artificiel dont les riches sont seuls bénéficiaires. Vous l'aurez la tête des médias. Les médias sont la tête de l'État. L'État protège ses oligarques et il serre les coudes au tribunal.
Quoi les valeurs qui font briller la France? Gérard Depardieu, son amour pour l'enfance. Charles Darmanin et son kink violent. Ou l'obsession d'Eric pour la simulation. Ils sirotent tes souffrances pour faire gonfler les vôtres. Un coupable émigrant de leurs propres erreurs. Quand je parle de mes agresseurs, on me demande leur couleur. C'est pas ton président qui défend les violeurs. Il veut construire un monde où les femmes sont des ventres. Où t'obéis sagement jusqu'à 67 ans. Redorer la nation par l'odeur de l'essence. Travail, famille, patrie, les juifs font les vents.
Faut qu'on résiste, faut qu'on existe en dehors du chemin tout tracé, parsemé de corps immolés et d'îles d'histoire trafiquées. Faut qu'on se décide, faut qu'on reste libre à être des pions dans leur jeu. Ils ont lancé une partie de risque, mais moi j'aimerais mourir mieux.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez la série documentaire Vert de Rage, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes.
Suspect numéro 3. Les possédants.
À travers nos entretiens, un responsable en particulier est revenu régulièrement.
Les plus riches.
Les classes possédantes.
Alors c'est quoi, d'après eux, un possédant ? Et quelles sont leurs méthodes ? La question n'est pas toujours simple. Nous sommes donc allés interroger Dominique Méda, sociologue et philosophe.
Le rôle de ces marchands de doux, des industries, en gros des industries pétrolières et gazières, de tous ceux qui ont quelque chose à perdre dans l'histoire. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont à perdre, tous ceux dont les industries fonctionnent avec ces énergies fossiles.
En bref, les personnes avec des intérêts financiers en contradiction avec la transition écologique. Et pour parvenir à leur fin, ils n'hésitent pas à recourir à la désinformation.
Alors, il y a tout simplement le climato-scepticisme, hein, avec cette idée que bah, c'est pas l'activité humaine. Bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas l'activité humaine, c'est les cycles du soleil. Après, on va vous dire que, bon, d'accord, il y a un problème, mais par exemple, bah, on va essayer de capturer le carbone ou des choses comme ça. C'est-à-dire, on ne remet pas en cause radicalement le sujet qui est aujourd'hui quand même bien les énergies fossiles.
Avant de prendre un cas concret, remontons un peu en arrière. Nous sommes le 10 novembre 2022 et sur la chaîne C8, le présentateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, avait invité le député Louis Boyard.
Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat?
Ça ah devrait oui. même pas être Est-ce un coup d'éclat que critiquer coup d'éclat. Ton patron sur ta chaîne.
Mais moi,
mais ça
moi,
devrait même
mais
pas être
écoute
un coup
moi
d'éclat.
Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Ah. Et toi, tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri.
Quand t'as autant de responsabilités
devant une chaîne médiatique. Ah ouais.
Vous vous souvenez peut-être de cette altercation, diffusée le 10 novembre 2022 sur Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, le présentateur qui tient ses propos, fait partie de la chaîne C8, elle-même propriété du milliardaire Vincent Bolloré, cette fameuse main qui le nourrit. C'est la même main qui finance la chaîne d'info CNews, où l'on peut assister à ce genre d'accueil pour les militants écologistes.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, il est là !
Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines.
Vous connaissez notre émission?
C'est une émission en réac.
Tu vas être rassuré.
Non, puisque vous êtes là. Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique? Oui ou non?
Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non.
Vous aimez,
comme un certain nombre de gens, les prévisions.
Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous trouvez ça normal ?
Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer.
C'est vous qui êtes folle,
je
là
voudrais...
C'est vous qui êtes dingue !
Cette séquence, elle date de 2019. On y voit Claire Nouvian, militante écologiste, invitée de l'heure des pros sur CNews et invectivée par la chroniqueuse Elisabeth Lévy, qui est soutenue par le présentateur Pascal Pro. Il est devenu l'un des premiers exemples du traitement outrancier que peut réserver la chaîne d'extrême droite aux questions écologiques. Pour Marine Brou, la prolifération de ce type de discours n'est pas sans effet sur les politiques gouvernementales.
Je pense qu'il y a des médias qui jouent un rôle extrêmement négatif et qui, au contraire, surtout depuis quelques années, diffuse énormément d'informations relativistes, voire même parfois climato-sceptiques, et qui sont assez dangereux pour l'action pour l'environnement. Donc des médias qui ont tendance à ne présenter l'écologie que sous l'angle contrainte. Il y a une focalisation sur cet aspect-là et une dénonciation du discours scientifique comme étant supposément alarmiste qui est assez dangereux. Donc il y a ces médias-là qui jouent un rôle qui est quand même délétère dans l'action environnementale parce qu'en plus, ils mettent en avant d'autres actualités en permanence qui forcent le débat public autour de ces actualités. Et quand on force le débat public, ben, on force aussi l'action publique. Et après, heureusement, il y a aussi énormément de médias qui font un énorme travail d'information, de sensibilisation, de diffusion de cette connaissance scientifique, des solutions qui existent.
Pour une mesure exacte du climato-scepticisme, il suffit de consulter les chiffres de l'Observatoire des médias sur l'écologie. En tout, CNews comptabilise en moyenne une fausse information sur le thème du changement climatique par heure. Il n'est devancé que par Sud Radio, avec 1,46 fake news par heure. Et elle est juste devant Europe 1, autre média de la sphère Bolloré. Sud Radio, quant à elle, est détenue par un autre milliardaire plus discret, Christian Latouche, 61e fortune de France. Pour Philippe Descola, cette mainmise de quelques-uns sur le débat public n'est pas un problème nouveau.
Ça me paraît des problèmes politiques les plus importants du 19e et du 20e et du 21e siècle, c'est que les possédants, disons, parviennent à convaincre les gens qui ne sont pas des possédants qu'ils ont tout intérêt à voter pour des régimes qui favorisent les possédants, parce que ces régimes les protègent de gens qui sont encore plus pauvres qu'eux.
Mais alors, à quel bord politique cette opération profite-t-elle le plus ?
Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'essentiel du débat politique est impulsé par les populistes, et en particulier les populistes d'extrême droite et la droite conservatrice, à minima sur les questions d'écologie, mais d'ailleurs pas que. Et donc, en fait, comme ce sont eux qui posent les termes du débat, on se retrouve en permanence à courir derrière les polémiques qu'ils ont réussi à faire monter. Et on arrive toujours trop tard parce que une fois qu'ils ont fait monter une polémique en créant énormément de fake news, en fait, on ne peut plus arriver derrière pour expliquer en quoi certaines choses sont vraies, certaines choses le sont pas. Et donc, comme c'est l'extrême droite qui génère beaucoup des polémiques aujourd'hui, on voit un glissement progressif de la droite conservatrice vers ces positions-là. Et un jeu du bloc central qui court aussi derrière la droite, qui elle-même court derrière l'extrême droite.
Bon, recentrons le débat. Le backlash est bien là. L'écologie perd de la vitesse, alors que les risques encourus, eux, augmentent drastiquement. L'État, même s'il n'est pas climato-sceptique, prend ces questions trop à la légère, réduisant l'écologie à une forme de supplément d'âme. Côté militant, le cœur balance entre découragement face à la criminalisation de leur mouvement ou désir de révolte face à l'inaction de l'État. Les possédants, enfin, utilisent leur patrimoine pour faire de la désinformation climatique via les médias et les lobbies.
Dominique Méda, philosophe.
Je pense que le point de bascule, c'est la guerre russo-ukrainienne. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a une augmentation très forte des prix de l'énergie, dont vont pouvoir s'emparer les partis d'extrême droite pour remettre tout ça en cause. C'est aussi à ce moment-là qu'on a la crise économique qui est de l'Europe, qui est un peu provoquée aussi par les politiques de Biden, qui investit énormément et qui met l'Europe dans une situation de crise.
Guerre en Ukraine, Covid-19, les crises sont nombreuses dans le monde et requièrent bien sûr une attention particulière. Pour autant, tout est une question de choix. Reste à savoir si la survie de notre écosystème vaut la peine d'agir.
C'était « Qui veut la peau de l'écologie ?» réalisé par Louane Drevon, Léo Mopilet et Raphaël Rocher-Campas. Durant ce documentaire, vous avez pu entendre différents extraits. Respire de Mickey 3D, Planète brûlée du collectif Planète Boom Boom, Éco-terroriste de l'Inconsolable, la chanson Doux Pays de Candeur Cyclone, la bande originale d'OVNI par Tilassine, la bande originale de Subnautica par Simon Chilinski, la bande originale de Stellaris par Andreas Valdedoft. Vous avez également entendu dans cet épisode les témoignages de Marine Brault, Anthony Cortès, Daniel QF, L'Affaire du Siècle, Nicolas Bonnet, Nicolas Sevenot, le collectif Alternativa, Philippe Descola et Dominique Méda. Dans le prochain épisode de Vert de Rage, vous retrouverez Anna Godet et Jules Loéac qui parleront des luttes locales. Bonne journée sur Canal B.